Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Cette édition est dédiée aux grévistes espagnols qui étaient en grève toute la journée, qu'ils sont encore, semble-t-il, au moment où... Ben non, en fait...
La grève le soir, ça veille moins,
ouais,
politiquement. Hein.
Rendu là, ils doivent être en train de dormir. Mais bon, toujours est-il qu'il y avait grève générale en Espagne aujourd'hui, le 29 septembre 2010. On va en parler à l'émission, mais c'est pas principalement de ça dont on va parler parce qu'on essaie de s'en tenir plus aux trucs locaux.
Et donc, on va parler un petit peu d'un nouveau mouvement de droite qui s'appelle le Réseau Liberté Québec.
Ah, et toi, t'es qui déjà?
Moi, je suis Stéphane, capitaine.
Toi, t'es Stéphane.
Jeannie.
Et Farouco.
Et Stéphane, il va parler?
Du Réseau Liberté Québec.
Voilà, c'est professionnel, c'est cahier. Toi, Jeannie, de quoi tu vas nous parler?
Je vais parler d'une étude d'un mouvement d'éducation populaire de la ville de Témiscamingue, femmes, logements et pauvreté, puis aussi d'un blogueur irano-canadien qui a été condamné à 19 ans de prison.
Et puis, pour ma part, ben, je vais revenir sur la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, qui est en campagne. Évidemment, bon, il y a la Marche mondiale des femmes, mais il y a aussi tout plein de capsules web qui sortent pour faire ressortir que, ben, ma foi, le féminisme aujourd'hui, c'est pas dépassé. Et on va revenir sur la grève en Espagne, mais aussi les grèves en France. Et on va finir avec nos plugs.
Hey, il y a même eu grève en Lettonie.
Il y a même eu grève en Lettonie.
C'est malade.
On a aussi plein de musique. Puis ben, c'est ça, comme je me suis amusé à dédier cette émission aux Espagnols, à la CGT en particulier, ben, on va aller avec une pièce qui leur est chère, Huelga, du groupe Poig.
Vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort?
Ouais, bon, alors on s'est demandé c'est quoi cette bande-là. On va en savoir plus en allant voir sur Voix de fait. Rapidement, c'est que la Confédération Générale du Travail, qui en Espagne est une centrale anarcho-syndicaliste, a fait une pub pour la grève générale du 29 septembre. Puis il y avait ça qui jouait en background, je trouvais ça sympathique. Je demandais à mon réseau social préféré, mais quelle est cette chanson? Et on m'a sorti ça, et semble-t-il que c'est un band punk espagnol d'une ville que je suis incapable de prononcer le nom. Volavoloy, je crois, quelque chose comme ça, là. Mais bon, enfin, bref, c'est un groupe autonome qui existe depuis le début des années 90. Puis je vais essayer de faire un peu plus de recherche et je vais mettre ça sur notre blog Voix de fait avec un X et un S .blogspot.com. Et avant de me mettre plus le pied dans la bouche, je vais céder la parole à Stéphane.
Ça va être à mon tour de me mettre le pied dans la bouche aussi. Je sais pas s'il va rester de la place. Et donc, on en arrive à... Ah ben, comme tu sais, en fait, ben, comme vous savez, ces temps-ci, un de mes dadas, c'est de documenter un petit peu tout ce qui se fait à droite, donc que ce soit au Québec ou en Amérique du Nord, plus généralement, même des fois un petit peu en Europe. Et donc, ces temps-ci, ben, je pense qu'il y a un sujet qui est assez incontournable, c'est le réseau Liberté Québec. Donc, le réseau Liberté Québec, c'est un réseau qui s'est annoncé au courant de l'été, qui a gardé beaucoup d'anonymat, pour pas dire qui c'était, qui faisait le blog.
C'est une stratégie de communication.
Voilà, exactement. C'est une stratégie de communication. D'ailleurs, on va revenir sur leur stratégie de communication, parce que il y a quand même quelques petites choses à dire. Et donc, ils nous ont fait une grande surprise, c'est-à-dire que le 1er septembre, ils ont annoncé publiquement qui composait un petit peu l'équipe derrière ce réseau Liberté Québec. Donc, avant de revenir à ça, on va parler un petit peu de cette historique. Donc, on l'a dit, le 1er septembre, ils ont dévoilé la composition du réseau. Juste un tout petit peu avant, ils avaient diffusé quelques communications sur YouTube, notamment, en laissant bien entrevoir donc le but de leur action, qui était d'établir une nouvelle plateforme qui avait pour but de consolider la droite au Québec. Donc déjà, ça s'affiche très officiellement. Et puis, dans les jours qui ont suivi, petit à petit, les thèmes étaient dévoilés, les références aussi. On nous a parlé également d'une première conférence de presse qui va avoir lieu le 23 octobre et que nous allons couvrir également. Et donc cette conférence de presse, elle va regrouper quelques invités. Donc la façon dont j'ai choisi de vous présenter un petit peu ce nouveau réseau Liberté Québec, c'est de vous présenter tout simplement une courte biographie des différents membres qui composent le réseau Liberté Québec pour savoir un petit peu à qui on a affaire.
C'est ça, on a un comité organisateur qui lance la patente. Puis qui essaie de faire une grande assemblée publique pour après ça s'élargir là, radicalement.
Oui, c'est un peu ça l'idée. D'ailleurs, les organisateurs et l'organisatrice sont assez clairs. Ils veulent pas devenir un parti, officiellement. Donc après, on va voir qu'on pourra mettre quelques petits bémols peut-être sur ce genre d'affirmation. Mais l'idée assez générale, finalement, c'est de restructurer la droite au Québec, qui s'est un peu quand même effoirée, il faut bien le dire, avec le décès de la DQ. Enfin, disons, une tranche plus radicale de la droite, parce qu'elle est quand même au pouvoir, la droite, il faut pas l'oublier non plus. Donc, effectivement, qui compose ce collectif du réseau Liberté Québec? Ben, on retrouve à l'intérieur donc du comité organisateur Joanne Marcotte. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose?
C'est pas la fille qui a fait un documentaire poche sur la Révolution tranquille?
Il est très fort, il est vraiment très fort. Donc c'est la réalisatrice de L'Illusion tranquille. Donc Nicolas vient de vous résumer la critique du film en quelques mots. Donc cette réalisatrice de L'Illusion tranquille, elle est également membre de la DQ depuis 2003. Elle a notamment siégé sur un comité gouvernemental en santé, bref.
Elle est pas membre démissionnaire en fait?
Elle a représenté la DQ. Moi j'ai pas vu sa démission, mais c'est possible qu'elle soit démissionnaire puisqu'elle jugeait que la DQ était plus assez à droite pour elle, donc c'est revenu assez souvent, notamment quand elle commentait les actions du blogueur Vincent Guelosso, qui est lui aussi un blogging Tories, comme on dit, un de ces conservateurs qui blogue. Donc lui disait que la DQ était pas assez à droite, et elle était tout à fait d'accord. Donc Joanne Marcotte. On retrouve également Guillaume Leduc. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Moins.
Non, ils sont pas très connus. Donc Guillaume Leduc, lui, il participe à un blog qui s'appelle Les Analystes. Alors les analystes, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Je vais montrer l'iconographie peut-être. Oui, rapidement. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ah ben oui.
Voilà, un A dans un cercle, est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
C'est une anarchiste peut-être?
Et non, c'est pas des anarchistes, ou alors des anarchistes de droite, ça aussi on pourrait revenir là-dessus, puisqu'effectivement...
C'est une loupe.
C'est une loupe, voilà, qui pointe sur un gros A. Donc, le monsieur Guillaume Leduc, c'est donc un des blogueurs, des analystes, un blog ultra-libéral, donc libertarien. Et, il dit par exemple que le conservatisme d'aujourd'hui donc s'aligne avec des valeurs comme la liberté individuelle, la responsabilité citoyenne, la défense de l'identité québécoise et la subsidiarité. Donc on reviendra sur
ces...
La subsidiarité, en fait, c'est le fait de ne pas dépendre forcément du fédéral, mais d'avoir une économie qui soit forte, vigoureuse et complètement privée. Et donc le but de ce monsieur Guillaume Leduc, il était aussi vice-président des communications de l'association des étudiants adéquistes de l'université Laval. Ça fait deux. Il y a aussi Yann Sénéchal qui était dans le comité organisateur du réseau Liberté Québec. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Et bien pourtant c'est l'ex-candidat de l'ADQ dans Kamouraska-Témiscouata, donc qui s'est présenté aux dernières élections provinciales pour l'ADQ également. Ça fait trois. Il y a également dans le comité organisateur Roy Iapon. Est-ce que vous le connaissez?
Non plus.
Eh ben non, c'est pas étonnant parce que c'est un blogueur conservateur, monarchiste catholique, torontois. Et oui, rien de moins. Donc lui, il est pas dans la DQ, effectivement. Mais monarchiste catholique,
c'est ça. C'est pas le réseau Liberté Québec?
Eh ben si, oui. Mais alors, je sais pas, il a peut-être déménagé à Montréal, j'en sais rien. Mais il se prétend, enfin, il a un blog qui s'appelle Dr. Roy Thought. Puis donc, il se présente comme un monarcheur catholique conservateur. Donc c'est une bizarre de bibitte. Une chance qu'on en voit pas souvent, ça fait peur. Éric Duhaime? Ah oui, ça quand même.
Oui, un peu.
Voilà. Alors, Éric Duhaime, il fait quoi dans la vie?
Il est adolescent tardé, lui.
Il donne son opinion.
Il donne son opinion, effectivement, sur une de ses grandes radeaux d'opinion.
Il casse les oreilles avec son opinion.
Voilà, effectivement, c'est bien ça son métier.
Il fait pleurer des yeux avec son opinion.
Mais c'est également un proche de l'ADQ, donc il travaille effectivement pour Choix FM et pour un journal...
Ouais, c'est un ancien député de l'ADQ, en fait.
Je crois que c'est un ancien député ou en tous les cas conseiller aussi de
l'ADQ.
C'est
pas le mec qui passe tout le temps à l'émission de Dumont.
Oui, c'est ça. Donc, il passe à Dumont, il passe à Jadouillon aussi, là. Puis il passe sur Radio X, Choix FM.
Choix, puis voilà. Il y a une chronique...
Au Journal de Québec également.
Ouais, et puis un blog sur le Journal de Québec.
Effectivement.
C'est encore quelqu'un que les médias censurent et empêchent de s'exprimer.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on va voir, c'est un des grands thèmes du réseau Liberté Québec, c'est qu'ils sont contre l'establishment, mais ils ont quand même réussi à avoir des journalistes aux radios, donc toutes les radios de Québec, le Journal de Québec, également des journalistes sur
Québec,
VTL,
comme chacun le sait, est un journal alternatif qui peine à survivre.
Voilà, exactement. Donc c'est quand même assez rigolo de voir qu'ils se plaignent finalement qu'il n'y ait pas de couverture de droite au Québec alors que tous les médias sont plutôt dans leur poche, mais bon, c'est pas grave.
Non mais Duhaime, c'était drôle hein, parce que tu sais, il y a un blog, ce gars-là, il y a un blog sur le Journal de Québec finalement, sur Québécois, et à un moment donné, il a décidé, le fil était assez grossier, c'est Pierre Morin qui a fait ressortir ça, alors il publie finalement la vidéo YouTube du réseau Liberté Québec qui annonce qu'il va se passer quelque chose, je sais plus quelle date. Mm-hmm. Et puis là, il dit, oh, c'est intriguant à savoir c'est quoi ce truc-là et tout. Puis là, Morin, qui est en fait l'ancien Mr. P, qui est l'archétype du blogueur libertarien au Québec et du blogueur de droite, lui, il revient en disant, mais attends, c'est clair que c'est lui, là, de toute façon, là, qui fait ce truc-là, là. Comment ça se fait qu'il s'auto-plug sur son affaire en disant que, hey, c'est intriguant, il va falloir surveiller ça de près, comme si, en fait, il n'était pas un acteur de cette chose-là.
Ah bah l'autoplugging, c'est pratique quand t'as pas beaucoup d'adeptes. Ça en fait au moins, hein, quoi, disons. Et donc, Éric Duhaime, il était aussi conseiller de Stockwell Day, par exemple, de Mario Dumont. Tu vois, des références quand même assez costaudes, quoi. C'était aussi un des conseillers du ministre.
On voit que ça leur a bien servi.
Oui, et ce qui est drôle, c'est que Éric Duhaime, il se présente comme un conseiller de la réforme démocratique. Alors, j'ai cherché à en savoir un petit peu plus. Et en fait, il fait partie d'un panel de 4 personnes qui a dû notamment assister le gouvernement irakien dans la mise en place des institutions démocratiques. Une belle réussite, bravo Eric. Et donc il est parti au Maroc, il est parti en Mauritanie, en Irak, etc. Et tout ça pour le compte d'une ONG dont il parle pas trop. Et en fait, cette ONG, je l'ai trouvée, elle s'appelle le National Democracy Institute. Et ça, c'est un satellite de la NED, qui est le New Endowment for Democracy, qui est dirigé par Madeleine Albright, une néoconne démocrate, qui disait par exemple
c'est
que
un ça... truc du Congrès américain, ça.
Madeleine Albright, c'était la celle qui faisait le foreign policy de Bill Clinton pendant la guerre d'Irak.
Et les NED, là, c'est pas une affaire financée par le Congrès américain.
Ça a été financé en fait créé par Reagan, puis ça a servi beaucoup de paravent pour pas mal d'opérations de la CIA, notamment dans les pays d'Amérique du Sud.
Donc c'est une ONG bien chez nous.
C'est une ONG, c'est ça, qui a tendance à subventionner en fait tous les mouvements travailleurs, notamment travaillistes, etc., les syndicats qui sont contre les gouvernements les plus radicaux de gauche. Donc c'est eux, par exemple, qui ont organisé un coup d'État pour destituer Milosevic, pour faire la même chose en Ukraine, en Biélorussie.
C'est eux, les révolutions de couleurs.
Voilà, exactement. Les révolutions de couleurs, c'est la NED. Et donc, Duhaime, lui, travaille pour le NDI, le National Democracy Institute, qui est une des filiales de la NED. Ça avait été créé par Reagan, hein, d'ailleurs, la NED.
Il va pas nous faire une révolution de couleurs au Québec, quand même?
Ah ben, en tous les cas, ils parlent souvent du bleu, du vieux fond bleu. Donc, tu vois, ils ont peut-être un petit problème de chromophilie. Je sais pas trop comment on peut appeler ça.
Pris par Non, les Ukrainiens, c'était orange, c'est vrai.
Oui, et d'ailleurs, ils ont participé aussi à la révolution des roses en Géorgie. Donc, tu vois, tu vois une thématique. Finalement, on peut faire pas mal de révolutions colorées. Une bleue poudre, peut-être, au Québec, un de ces quatre. Et donc, il y a plusieurs commentateurs qui définissent la NDI comme une officine américaine dont le but est de mettre en place des régimes pro-américains à travers le monde. Donc, effectivement, Monsieur Duhem, ouais, il est quand même bien plugué. C'est intéressant de voir qu'il publie aussi dans le National Post, dans le Wall Street Journal, donc dans toute la presse très conservatrice et très radicale à droite. Et d'ailleurs, il a, par exemple, fait sur son blog une apologie qui lui a été un peu reprochée quand même, celle de Pinochet. Il faut dire que quelques âmes sensibles se souviendront.
Ça fait deux avec Margaret Thatcher.
Ça fait deux fans, tu vois. Peut-être que Pinochet s'était auto-plugué comme Duhem, donc ça ferait trois.
Ouais, bon, ça, écoute, c'est toujours des... Une fois de temps en temps, il faut un pas de travers. Là. C'est comme quand Mathieu Bock côté s'est mis à louanger les FN.
Ouais, ou bah dire finalement qu'on aime un petit peu trop ce qu'on aime, c'est apparaître pour ce qu'on est. Donc effectivement, le RLQ, pour faire ça vite, parce que je vais pas passer la soirée là-dessus non plus. L'idée donc du RLQ, c'est de promouvoir le renouveau d'un nationalisme de droite, donc des références à Mathieu Bock côté. Donc tu disais qu'il fait l'apologie du FN, c'est pas très étonnant.
Ouais, ils se sont fait varloper solide hein, sur le nationalisme cette semaine.
Oui. D'ailleurs, bah, enfin, il y a eu
pas mal de Richard, ton grand ami Richard.
Lequel?
Martineau.
Ah oui, il les a varlopés.
Oui, parce qu'il disait qu'il s'intéressait pas à la question nationale, puis que, mm-hmm. que donc jamais il pourrait aller chercher des nationalistes conservateurs comme lui.
Mm-hmm. En même temps, c'est justement assez intéressant parce que ça crée beaucoup de dissensions en fait, même au sein de l'ADQ, ce nouveau réseau là. Donc tu mentionnais Pierre Morin, donc il y a un peu d'antagonisme personnel, mais aussi d'antagonisme politique. Et puis on va voir que aussi c'est un réseau Liberté Québec qui est composé de gens qui ne partagent pas forcément tous les mêmes avis sur tout. Et n'importe quoi. Donc on retrouve par exemple des conservateurs moraux, plus donc proches des théocons religieux de l'Ouest, comme par exemple Jacques Brassard, qui est un de leurs invités, donc qui participe à la revue Égard, dont j'ai déjà parlé. Ouais, méchant Moineau, effectivement, ancien ministre péquiste.
C'est un autre là, qui se fait censurer beaucoup, hein. Il y a une chronique dans le quotidien au Saguenay.
Non, il s'est fait renvoyer. Oui, il s'est fait renvoyer, maintenant il est juste sur son blog, mais ça l'empêche pas quand même d'être un grand fan de M. Bush, de dénigrer le réchauffement climatique. Il parle d'un complot réchauffiste. Il a également signé le ralliement identitaire dont je vous ai déjà parlé, là où il fallait donner un peu de catéchèse à tous les nouveaux immigrants. Donc ça, c'est les invités du RLQ. On retrouve aussi Cory Tenneke. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme nom? Cory Tenneke?
Non.
Eh ben lui, c'était l'ancien responsable des communications de Stephen Harper, récent démissionnaire de Québecor Media. Voilà, c'est ça. Donc il voulait faire la promotion de Sun TV, la Fox News du Nord, là.
Ouais.
Et finalement, ben il s'est fait pogner en train de tricher sur une pétition à Avat. Et il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Et le lendemain, il a donné sa d'émission, ce qui augure plutôt mal. Et donc, c'est le premier invité qui fera l'intro du RLQ, c'est quand même pas mal. On va retrouver également Gérard Deltel, donc forcément un élu d'Anchevaux, hein, pour l'ADQ, ouais. Qui était aussi journaliste de TQS.
C'est aussi le chef de l'ADQ, en fait.
Oui, c'est encore le chef.
Ah oui, c'est encore le chef de l'ADQ aujourd'hui, c'est vrai, depuis novembre 2009. Il y a également Maxime Bernier qui va apparaître, donc le député de la Beauce pour le Parti conservateur.
Monsieur Jolouis.
Voilà, Monsieur Jolouis qui distribuait des Jolouis aux soldats en Afghanistan.
Je pense c'est un Tea Party au Québec.
Ben, ça ressemble un petit peu à un Tea Party, effectivement. D'ailleurs, sur la radio de Jeff Hillion, sur Choix Radio X, on leur demandait s'ils voulaient faire un Tea Party. Et la réponse était un peu mi-figue, mi-raisin. Oui, non, on veut pas faire un Tea Party, c'est un peu des freaks, mais en même temps, nous aussi, on a des freaks. Puis, eux, ce qu'ils aimeraient bien faire, finalement, c'est mettre la main sur le capital politique qui a été amorcé avec l'histoire des cols rouges. C'est grosso modo, c'est un petit peu ça.
Donc, ils vont être à la marche bleue.
Et voilà, donc ils vont essayer maintenant de récupérer ce vieux fond bleu qui est dans la manif des cols rouges, tout en ayant l'assistance de quelqu'un qui fait des révolutions de couleurs un peu partout. Et pas mal de vieux conservateurs, des théocons, des ultralibéraux.
Est-ce qu'il y a un lien avec le Manifeste des Lucides? Parce que c'est pour le 10e ou 5e anniversaire du Manifeste des Lucides qu'ils font leur conférence.
Hein? Bah, tu vois, leur clip sur YouTube, ils s'ouvraient sur une déclaration donc de Lucien Bouchard qui parlait de son Manifeste des Lucides. Ils reprennent aussi quelques phrases donc d'autres conservateurs comme André Arthur, etc., bon, qui affichent pas forcément leurs couleurs. On retrouve aussi des gens comme Frédéric Tétu, tu vois, qui est organisateur de l'ADQ pour Nanvanier.
Et professeur de philosophie au Cégep.
Ouais, professeur de philosophie au Cégep également.
On a plus les droitistes qu'on avait.
Et en tous les cas, on a peut-être plus les gauchistes qu'on avait non plus. Et puis, donc, qui participe avec Éric Duhem à Choix Radio X, Jeff Hillion. Il y a même des gens qui, par exemple, comme... Ah, je suis en train de perdre son nom. Quelqu'un qui faisait l'apologie de Duplessis. Ah, c'est un petit peu dommage.
Conrad Black.
Ah, c'est Frédéric Tétu. Voilà. Frédéric Tétu, voilà, effectivement.
Frédéric.
Donc, le réseau Liberté Québec, donc la droite ultralibérale s'organise sur une base donc libertarienne, apologie des régimes à la Pinochet, climato-scepticisme, lutte contre l'establishment médiatique, mais en même temps, ils sont plugués dans tous les grands médias de droite. Eh ben, on va bien rigoler.
Ça va être plaisant. On espère qu'ils vont se planter.
T'imagines-tu que même Mario Dumont les a qualifiés de radicaux?
Ouf. Ouais, mais Mario Dumont, maintenant, il y a une émission télé, fait que faut qu'il pogne partout, lui.
Ah ouais, c'est peut-être plus compliqué, j'avoue, de plugger de la pub quand on... Ouais, t'as raison.
Et voilà. Ouais, ben nous, on va continuer en musique.
Hey, merci Stéphane,
ça fait plaisir.
Ouais, on va continuer avec le groupe français KDD avec la pièce « 9 mois ».
Les fistons, t'apprendre le vélo et le foot. T'aimais plus que tout et même te servir poutre. Je t'aurais appelé Sydney, Sydney Camara, ça le fait. T'aurais été une star derrière les caméras de ciné. J'avais tellement de choses à te dire, tout et rien du délire. Le petit prince, le petit poussé, c'était des trucs à te lire. J'avais la vie à t'offrir, ma vie passée à souffrir. T'aurais servi ta vie pour que tu puisses t'en sortir. Putain, je t'ai fait partir comme un vulgaire salaud. Je t'ai fait sortir par la petite porte sans t'avoir fait de cadeau. Tous les jours, je croise ton regard, je porte le fardeau. Je croise des gosses gaillards courir derrière des vélos. J'ai pas porté, mais je porte avec moi le cauchemar. Je pensais pas être aussi faible devant le miroir. Faut me croire, ta mère, je l'aimais pas. De faire, je l'ai pas fait exprès. En plus, pour t'expédier, c'est même pas moi qui paye. Pardonne-moi, fiston, bénis ton père, ce sale con qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi, fiston, bénis-moi, fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Ex-futur père exemplaire pour certains criminels. Je fais la cible de commando, trop de remords dans le cerveau. Pour certains raisonnables, j'ai fait le bon choix. Je lui ai dit de le faire car ma vie ne faisait pas le poids. Qu'aurais-tu dit d'un père en survette, plein de shit dans les chaussettes, malhonnête, qui gagne sa vie avec son bis à serpette. Qu'aurais-tu dit d'un père qui se bat quand on le trique de boîte, qui boit et se soigne avec un pote et un pack. J'ai même pas le permis, j'ai un casier bien rempli. J'ai passé ma vie à faire le con mais aujourd'hui j'ai compris. Être un homme, c'est pas les taches de sang sur son blouson, ni une réputation faite sur les putes et les bastons. Pardonne-moi fiston, bénis ton père ce sale con, qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi, fiston, bénis ton père, ce sale con, qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi, fiston, bénis-moi, fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. En plus tu sais, j'aurais plaqué ta mère un soir après 5-6 bières. Je voulais pas l'épouser, juste épater quelques frères. Quand on est jeune et fou, on tire son coup pour faire l'expert. Mais en aucun cas l'excès, fais de toi un bon père. Je l'aurais plaqué, puis quoi, que t'élèves dans un foyer. Arrivé 19h juste à temps pour te percer. T'aurais connu la dèche, les flinches, les tickets ciné. L'espoir chaque soir de vouloir m'assassiner. T'aurais ce style de père, que même l'enfer bannit. Raidement retroqué quand t'aurais voulu faire ta vie. J'aurais fait une mercelle aux 12 mercenaires en amour. Je regrette le geste chaque seconde de 7 jours. Pardonne-moi fiston, bénis ton père ce sale con, qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis-moi fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis-moi fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi.
Bonjour et bienvenue à Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. On entre dans notre bloc féministe avec Janine.
C'est le regroupement d'éducation populaire de la BTT Témiscamingue, la RAPAC, qui est membre du FRAPRU, qui a publié l'étude « Femmes, logement, pauvreté », mais ça, c'est un document qui a été publié par le FRAPRU, qui démontre que 4 femmes sur 10 consacrent plus de 30% de revenus au logement. Dans les deux principales villes de la BTB, Rwanda et Val-d'Or, ça représente plus de 2430 familles dont le soutien principal soutien financier est une femme. Cette Étude-là révèle également que les mères monoparentales et les femmes de 65 ans et plus, ainsi que les femmes autochtones, sont les plus vulnérables. Puis d'ailleurs, c'est 50% des femmes sont locataires par rapport aux 32% des hommes. Selon Vicky Potvin, entre femmes de Rwanda, elle entend des témoignages de femmes à tous les jours qui leur racontent des difficultés à se trouver un logement qui a de l'allure. Ce sont souvent des logements trop petits, les prix sont trop chers. Des fois, il y en a qui cherchent d'autres logements et c'est la discrimination des propriétaires. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. L'agent de développement du REPA, Danique Laporte, croit que les gouvernements fédéral, provincial et municipal devront s'unir pour développer davantage d'unités de logements sociaux. Puis le taux d'inoccupation des logements en habitude est quand même de moins de 1%, puis justement une crise du logement à Rwanda et Val-d'Or.
Ouais, c'est assez pathétique en ce moment en Abitibi pour le logement. Il y a beaucoup de jobs qui se sont créés. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont construites.
Non, puis il y a manque de terrain aussi à Rwanda. Parce que si on prend les projets Miami à l'Arctique, il y a beaucoup de monde qui vont pas rester à l'Arctique, mais ils vont rester comme des villes alentours. Puis il n'y a pas assez d'unités d'habitation pour accueillir ce monde-là.
Ouais, ben ce document-là, Femmes, logement et pauvreté, c'est suite à une démarche du comité Femmes du Frappru que ça a été produit. Puis il y a des lancements qui se tiennent un peu partout. Là. Bon, il y en a eu un à Abitibi, il y en a eu un à Montréal. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, là, il y a une présentation qui va être faite à la JT mardi le 5 octobre, donc mardi prochain, dans le cadre d'un 5 à 7. C'est un programme double. Il y a le lancement du document avec une présentation animée dès 5 heures. Et ça va être suivi, en fait, du lancement calendrier 2010 des luttes sociales. Tout ça, en fait, se fait dans le cadre, en marge, à côté de la Marche mondiale des femmes, qui est à son point fort en ce moment. Évidemment, on entre là, dans le mois d'octobre, fait que ça s'en vient solide. Puis ben justement, moi, je suis allé chercher des affaires sur Internet. On se demande souvent, bon, en 2010, nous, on se le demande pas, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que c'est toujours pertinent d'être féministe? Est-ce que l'égalité a pas été atteinte au Québec, à tout le moins, en Occident? Puis bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça?
Dans nos bons médias de droite, on entend parler de matriarcat.
Oui, on parle de fémi-favoritiste et plein de choses comme ça. Et donc, je me suis promené, il y a la Fédération des femmes du Québec qui a changé de cap depuis quelques années, qui là se relance là dans la Marche mondiale des femmes et qui en fait a produit des capsules vidéo pour dire que finalement non, ça vaut encore la peine de se battre, puis l'égalité est pas complètement atteinte, alors là, loin de là. Et c'est des capsules qui sont intéressantes, là. Il y en a une demi-douzaine là, sur Internet. J'en ai ramené trois. La première que je vous invite à écouter, ça a été fait il y a quand même un certain temps, et puis bon, c'est pour inciter les gens, en fait, à venir, les femmes, à venir à la Fédération des femmes du Québec.
Au cours des dernières décennies, les femmes n'ont cessé de se mobiliser pour faire avancer la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Cependant, il y a une cause que les femmes ont gagnée sans devoir se battre. C'est l'espérance de vie. Si, jusqu'à l'âge de 50 ans, le nombre de femmes et d'hommes demeure à peu près égal, la proportion des femmes tend à augmenter par la suite. Si bien que parmi les personnes âgées de 85 ans et plus, 7 sur 10 sont des femmes. Quelle chance de pouvoir vivre aussi longtemps! Mais malheureusement pour les femmes, vivre plus longtemps veut souvent dire vivre pauvrement plus longtemps. En effet, les femmes aînées sont deux fois plus nombreuses que les hommes à vivre dans la pauvreté. Lorsqu'elles quittent le marché du travail, les femmes subissent une baisse importante de leurs revenus, ce qui est normal, mais en plus, elles ont moins de pensions privées que les hommes, moins d'épargne de retraite et moins de rentes versées par la Régie des rentes du Québec. Pourquoi? Parce que premièrement, les femmes ont un salaire inférieur à celui des hommes tout au long de leur vie. Deuxièmement, parce que ce sont encore majoritairement les femmes qui quittent le marché du travail pour s'occuper soit des enfants, soit d'un proche malade. Résultat, elles cotisent moins à l'ensemble des programmes de retraite. Ici, comme partout ailleurs, la pauvreté a un sexe. Elle a aussi un âge. Ensemble, on peut changer les choses. Joignez-vous à nous.
Fait que ça, c'était la publicité homemade de la FFQ. Pour parler, pourquoi est-ce que finalement les femmes, notamment les femmes âgées, sont dans la pauvreté? Puis pourquoi en fait finalement l'égalité n'est pas atteinte de ce niveau-là? On pourrait se dire, bon, ça touche les personnes de troisième âge, on peut comprendre elles étaient encore moins payées que les hommes, et donc l'équité salariale n'était pas arrivée. Donc finalement, c'est quelque chose qui est en train de se résorber et qui pourra éventuellement changer. Donc
sélection naturelle.
Ça concerne nos grands-mères, mais ça concerne pas en fait nos sœurs, nos mères, nos conjointes. Ben non, justement, ça concerne aussi les jeunes. Puis c'est un peu drôle, là, il disait la pauvreté, un sexe et un âge. Et en fait, si on regarde ça plus précisément, ça a deux âges, la pauvreté. Puis on va entendre la deuxième capsule, tant qu'à faire.
La jeunesse. C'est beau, la jeunesse. C'est la fleur de l'âge, la beauté, la santé. Mais c'est aussi la pauvreté. Saviez-vous qu'au Québec, les jeunes femmes forment un des groupes les plus touchés par la pauvreté? Être une jeune femme au Québec, ça veut dire s'endetter davantage que les hommes pendant les études, avoir plus de difficultés d'accès au marché du travail et avoir un revenu moyen qui correspond à 70 % du revenu moyen des hommes. Ça veut aussi dire être plus touchée par la montée du travail atypique et les emplois à temps partiel, avoir un accès plus limité à l'assurance-emploi et devoir s'occuper de la majorité des tâches domestiques en plus de travailler. Si on est une jeune mère, ça peut aussi vouloir dire joindre les rangs des familles monoparentales, dirigées à 90 % par des femmes, et devoir gérer les problèmes liés à la conciliation travail-famille ou études-famille. Ici, comme partout ailleurs, la pauvreté a un sexe. Elle a aussi un âge. Ensemble, on peut changer les choses. Joignez-vous à nous.
Donc ça, c'est des capsules, en fait, qui sont produites par la Fédération des femmes du Québec pour parler de féminisme, en fait, et pourquoi, en fait, c'est toujours pertinent d'être féministe. Récemment, en fait, elles se sont lancées... Il y a la mobilisation qui est très, très, très enclenchée sur la Marche mondiale des femmes, sur le thème « En 2010, ça va marcher ». Et là, il y a d'autres capsules qui sont peut-être un peu plus frappantes qui ont été produites. On a assez tiré l'élastique. Il y en a quatre qui sont sorties jusqu'à maintenant. Celles-là sont un peu plus graphiques, donc c'est pas nécessairement super à la radio, mais je me suis dit que, la quatrième... vu que c'était surtout du texte, ça pouvait passer. Alors, c'est en fait une petite fille qui prie. C'est pas compliqué, hein? Et donc, on va voir qu'il n'y a pas juste sa voix de fait qu'on s'inquiète, en fait, de la montée de la droite et des intégristes religieux.
Mon Dieu, faites que je sois grande, que j'ai des gros seins, une petite taille, des longues jambes, des dents blanches, des doigts fins, des beaux ongles, des cheveux blonds, des grosses lèvres, un petit nez, puis pas de poils. Puis faites que je sois bonne pour faire des pipes, faire des tripes à trois, puis faire semblant. Comme ils font sur Internet. Puis aussi, faites qu'à l'école, ils donnent des cours sur la sexualité parce que je sais pas trop comment me protéger, là, puis je suis un peu stressée. Puis mon Dieu... Si je tombe enceinte, faites que Monseigneur Ouellet, un peu pis sa gang, recriminalise pas l'avortement. Parce que ma mère, elle vient de jeter ses aiguilles à tricoter, puis je connais pas d'autres moyens, moi, pour m'auto-avorter. Merci, là. Amen.
On a assez tiré l'élastique. Nous exigeons une législation pour contrer les publicités sexistes, le retour des cours d'éducation à la sexualité dans nos écoles, et le maintien du droit inaliénable des femmes de décider d'avoir ou non des enfants. Du 12 au 17 octobre, marchez avec nous.
Et donc c'est une pub YouTube pour la Marche mondiale. La Marche mondiale qui se décline en fait autour de 5 revendications. Et je vais les plugger pendant qu'on y est. Il y a des activités, on le dit, du 12 au 17 octobre. Il y a des activités un peu partout. Et à Québec, il y aura des activités du 12 au 16 et une manifestation nationale à Rimouski le 17. Donc c'est des marches thématiques, des activités thématiques. Le mardi 12 octobre, c'est sur le thème de l'autonomie économique des femmes. Et c'est une manifestation mixte qui est appelée. La marche va partir à 19h du Parc Lequel, à côté du Périscope, et va se rendre jusqu'au Parc de l'Amérique française, à côté du Grand Théâtre. Donc, c'est... Et c'est précédé, en fait, d'une activité, d'une soupe solidaire pour les femmes et les enfants à 16h au Périscope. Le lendemain, le 13, c'est bien commun et accès aux ressources. Alors, c'est un rassemblement à 18h au parc Georges V en face du manège militaire. C'est mix. Il va y avoir une marche symbolique. On demande aux gens si c'est possible de venir habillés en noir avec des gants rouges jusqu'à Place d'Armes, coin rue du Trésor et Saint-Louis. Le 14, c'est sur le thème de la violence envers les femmes. Il y a un rassemblement à 10h30 dans le stationnement en face de la gare du palais près de la fontaine, et il va avoir une marche là, jusqu'au parvis de l'église Saint-Roch pour une activité mixte, et il y aura une activité non mixte pour les femmes seulement, donc le 14 octobre en soirée, en fait dès 18h à la JT, il va avoir un cabaret. Et le lendemain, le 15, c'est sur la paix et la démilitarisation. Et le 16, c'est une pièce de théâtre sur les droits des femmes autochtones. Donc, c'est les 5 revendications. Autonomie économique des femmes, bien commun, accès aux ressources, violence envers les femmes, paix et démilitarisation et droits des femmes autochtones. Et le 17, dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, ben, il va y avoir la marche mondiale des femmes à Rimouski. Il y a des autobus qui partent dès 6h le matin de Québec. On peut s'inscrire auprès de plusieurs organisations. Je vais nommer la première, mais il y en a d'autres aussi, là, auprès de Rose du Nord, dès que possible. Il reste peut-être encore quelques places au 418-622-2620. 418-622-2620. On aura probablement l'occasion d'y revenir la semaine prochaine sur la marche mondiale des femmes, mais je voulais quand même ramener là, la question des capsules de la FFQ, parce que je trouve que c'est des moyens de mobilisation innovateurs, puis ça s'en vient de plus en plus sur Internet, là, les capsules et tout. Évidemment, on va les mettre sur notre blog pour que vous puissiez les voir, pas juste les entendre. Donc, c'est ça. Ça va être tout pour ce micro-là, puis on a de la musique, hein?
Oui, demande spéciale à Jenny. On sort une vieille pièce de Slayer.
What I've known all this time.
Hey, vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. C'était Slayer. Vous écoutez Voix de Fée, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. On rentre dans notre bloc international en partant avec l'Iran.
C'est ça, c'est un blogueur iréno-canadien. Hashim Deraskan, j'espère que je prononce comme il faut, qui a été condamné hier à 19 ans de prison par la justice iranienne. C'est lui, il a été coupable de collaboration avec des États-Unis, de publicité contre la République islamique, d'insultes envers le sacré à cause des exécutions liées à la justice le web, de blogage. En Iran, ces crimes-là sont passés de la peine de mort, dans le fond. Il a été condamné à 19 ans de prison, mais il aurait pu être pendu ou lapidé à cause de ça. C'est ça, c'est lui, dans le fond, il y avait, il s'est installé en France en 2007 après avoir vécu 7 ans en Ontario. En 2008, il était retourné à Téhéran pour couvrir l'élection présidentielle de juin 2009, puis il avait été arrêté quelques jours après son arrivée. Puis dans le fond, ça fait 2 ans qu'il est détenu en Iran pour avoir blogué sur, c'est ça. Ben, lui, c'est ça, il est détenu depuis 2 ans à la prison d'Evin à Téhéran, la Montréalaise, Zahra Kazemi avait été tuée en 2003. Donc, il est détenu à la même place. C'est pas, très rassurant. Ça, c'est le gouvernement canadien, là, ils ont dénoncé la condamnation via le ministre Lawrence Cavan de ce communiqué. Ils disent qu'ils vont continuer d'exercer des pressions, mais on sait pas ce que ça va donner parce que Téhéran reconnaît pas la double nationalité des Iraniens, donc, puis le gouvernement iranien a refusé jusqu'à maintenant que Tawar visite visite en prison. Donc, on va voir, checker que ça va donner dans le futur, mais pour l'instant, le Canada n'a pas l'air d'avoir bougé plus que ça.
Ce qu'on lui reproche surtout à lui, c'est d'avoir démocratisé Internet en expliquant, ouais, en langage très simple, comment partir un blog, puis comment faire une couverture journalistique.
Ouais. Ce qui puis pas, il aurait pu être tué à cause de ça.
Cœur, hein?
Ouais.
Quand est-ce qu'on fait notre rubrique là-dessus?
Puis en France, c'est ça, il était condamné à 19 ans de prison. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée contre un blogueur iranien.
Ouais, en fait, c'est un journaliste, dans le fond. C'est terrible. C'est du beau pour ça?
Oui.
Oui, OK. On va sûrement y revenir sur ces questions-là, parce que c'est quand même assez vif ce qui se passe. Je voulais revenir sur les mouvements sociaux. La semaine dernière, on a parlé, en fait, de la manifestation du collectif pour un Québec sans pauvreté, où on entonne comme un mantra qu'on va avoir un automne chaud. On essaie de se convaincre qu'on va avoir un automne chaud puis qu'on va se battre et tout. Il y a eu aussi, la semaine dernière, jeudi, une occupation organisée par l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Une cinquantaine de personnes qui ont...
Dans les bureaux de Lynn Beauchamp, la ministre de l'Éducation.
Ouais, c'est ça. Une cinquantaine de personnes qui ont occupé ces bureaux, qui ont fini par la rencontrer. Et il y a plusieurs actions qui s'en viennent et puis on essaie de qu'est-ce que ça fasse boule de neige au Québec. Et il y a même, en fait, des débats en ce moment sur la grève sociale, des débats qui se tiennent dans certains mouvements sociaux. Puis je voulais ramener en fait le fait que c'est des choses qui se passent, c'est pas juste ici, ça se passe aussi ailleurs, mais ailleurs ça réagit un peu plus vivement peut-être. Notamment en France, où il y a eu 2 journées de mobilisation pendant le mois de septembre. La dernière a eu lieu le 23 septembre, la semaine dernière, donc le 23, c'est jeudi dernier. Et il y a quand même 3 millions de personnes qui ont manifesté dans différentes villes françaises pour manifester leur colère face au gouvernement, qui, comme ici, est embourbé dans des affaires et qui persiste à imposer une loi uniquement destinée à servir les intérêts du capital, soit une réforme des retraites. Et donc, il y a nos camarades d'Alternative libertaire, la coordination fédérale des collectifs pour l'Alternative libertaire, qui, le 25 septembre, sont sortis en disant que ça prenait une grève générale reconductible en France, et donc que ça prenait un mouvement d'ensemble qui avait de la misère à émerger et tout. Et pour eux, la question de la grève générale est posée. Et bon, eux, ils considèrent que une journée de grève, c'est pas assez, puis que donc il faut une grève générale continue. Mais quand même, il y a ça qui se passe en France, alors qu'ici, bon. Et c'est des choses aussi qui se passent dans d'autres pays d'Europe. Alors, aujourd'hui, le 29 septembre, il y avait une journée... européenne de mobilisation contre le gouvernement, contre les gouvernements européens qui veulent faire payer aux classes populaires les affres de la crise. Alors, j'étais là et j'en ai ramené quelques sons.
Voilà,
j'étais pas là, évidemment, c'était YouTube qui était là. Mais il y a 10 millions de travailleurs en grève générale en Espagne ce 29 septembre. Et les gens des syndicats, des commissions ouvrières et de l'Union générale du travail, qui sont l'espèce de gros syndicat mainstream espagnol, chiffrent à 70% à peu près le nombre de grévistes le matin dans toute l'Espagne. Ils ont précisé que si ça se maintenait, ça voudrait dire que le mouvement aurait été suivi par 10 millions de salariés sur 15 millions. Il y a 15 millions de salariés en Espagne, et puis il y aurait eu donc 10 millions de personnes qui auraient été en grève.
Et on parle quand même d'un pays qui a officiellement 20% de taux de chômage actuellement.
Ah ouais, jusqu'à 45% chez les jeunes. C'est assez hallucinant.
Ça a déjà monté jusqu'à 29 l'an passé.
Ouais, mais il y avait un reportage un peu débile là, sur une émission française, puisque je faisais la recherche là-dessus, parce que tu avais une étudiante en médecine qui distribuait des tracts contre la précarité, puis elle expliquait que même si elle était étudiante en médecine, elle disait à peu près partout dans le monde, être étudiante en médecine et réussir, ça veut dire que t'as une job puis que t'es bien, mais pas en Espagne. Ça veut pas dire que si tu sors avec ton diplôme de médecin, ça va réussir. Bon, enfin, bref, il y a des grèves qui ont été très importantes, surtout dans le secteur privé. Dans le secteur public, ça a été un peu moins fort, mais entre autres dans la métallurgie à 74%, dans l'industrie chimique à 80%, les mines à 100%. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de mines en Espagne en ce moment, mais quand même. Plus de 65% dans l'énergie, les routes, transport 85% et tout. Et ça a été assez assez relevé. En fait, on l'entendait. Les porte-paroles ont dénoncé la brutalité des charges policières contre les piquets de grève, ce qui s'était déjà produit dans le passé. Ils donnent, pour exemple, le fait que 7 coups de feu ont été tirés en l'air à Madrid. Ils ont aussi dénoncé l'emploi de taser pour disperser les travailleurs sur les...
Le taser, il me semble que c'est... pas efficace.
Non, en tout cas, ben, d'armes électriques pour disperser les travailleurs. Puis il y aurait 30 syndicalistes actuellement qui sont toujours détenus au commissariat de Madrid. Et il y a eu des affrontements assez sévères à Barcelone. Les sons qu'on entendait, c'était à Barcelone, où on voit sur les vidéos, en fait, la police anti-émeute qui tire sur les manifestants pour essayer de les déloger. Et dans l'ensemble du pays, il y a une vingtaine de personnes qui ont été blessées lors des heures entre les policiers grévistes en matinée aux abords d'usines. Et la police a procédé à une soixantaine d'arrestations. Et à Barcelone, il y a des affrontements qui ont eu lieu entre policiers militants à l'extrême gauche en marge de la grève. Donc ça, c'est ce qui se passe en Espagne, et j'en parle entre autres, bon, parce que je voulais qu'on le sache, qu'on en parle un peu ici, mais aussi parce que l'UCL, l'organisation là à laquelle notre collectif appartient, a été invité à signer une déclaration d'appui à la grève générale par la CGT, qui est le principal syndicat anarchiste espagnol, qui nous demandait de les appuyer. Ce qu'on a fait avec 57 autres organisations un peu partout dans le monde, et donc c'est ça, pour eux c'est vraiment un premier pas vers quelque chose de plus solide. Donc ça, si vous voulez lire la déclaration, là, faut aller sur le site de Cause Commune, www.causecommune.net. Elle est là. C'est aussi sur Anarchismo. Et nous allons sans doute publier dans les prochaines heures quelques vidéos et rapports de cette grève, histoire de se mettre l'eau à la bouche.
Marc Épine a dû vraiment réfléchir son acte. Et il l'a dit en entrant à l'école polytechnique, à une femme au registraire, il a dit qu'il y avait trop de femmes à la polytechnique.
Une des déclarations les plus stupides que j'ai jamais entendues dans la bouche d'une femme d'affaires.
Et c'est des propos qu'on peut entendre aussi, malheureusement encore aujourd'hui.
Si elle a du succès en affaires, la bonne femme a dit que c'est parce qu'elle est une femme.
Vous écoutez Voix de Fait.
Et puis, c'est ce qui... c'est ce qui nous amène à nos plugs. Voix de fait sur les ondes de Sequoia 83 à Québec. On va pas y aller dans l'ordre, on va y aller dans le désordre chronologique. Parce que d'abord, il y a une activité que c'est nous qui organise. Fait qu'on va, c'est celle-là qu'on va plugger le plus solidement. Alors, comme on le sait, il y a un mouvement anti-choix, communément appelé Pro-Vie, qui est organisé à Québec. Et à chaque année, ils organisent quelque chose qui s'appelle la chaîne pour la vie. Et encore cette année, ils vont rassembler des chrétiennes et des chrétiens, des intégristes, si vous voulez mon avis, pour faire entendre leur message. Message on ne peut plus subtil, l'avortement tue les enfants, l'avortement fait du tort aux femmes, la vie, le premier droit inaliénable, etc. Et donc, c'est ça. Ils vont faire ça devant le CHUL, le centre hospitalier de l'Université Laval, en face de Place Laurier. Et donc, nous, en tant qu'individus et groupes qui défendons les valeurs fondamentales d'égalité, on répond que le libre choix, c'est pas négociable. C'est aux femmes de décider de l'issue de leur grossesse. L'Église n'a pas à juger, à commander ou à punir. Elle n'a pas à s'immiscer dans la liberté de choix des femmes. Elle n'a pas à s'immiscer dans leur conscience ou leur corps. Et il n'y a pas de recul en arrière possible sur cette question-là. L'interruption volontaire de grossesse, la poursuite de la grossesse ou l'adoption doivent rester des choix personnels aux femmes qui vivent les grossesses. Et donc, face à ce rassemblement d'intégristes, nous, on appelle à un rassemblement, à une contre-manifestation pro-choix. Donc, dimanche, le 3 octobre, pour ne pas laisser le champ libre aux intégristes qui sont actifs dans notre communauté pour terroriser les femmes. Donc, l'avortement, c'est un droit et on est fiers de le réaffirmer. Et donc, dans ce sens-là, on veut le défendre sur la place publique pour contrer les discours et les stratégies politiques anti-choix. Donc, c'est un appel du collectif Anarchiste la Nuit, donc de l'UCL Québec, de Voix de Fait. Et donc, dimanche 3 octobre à 13h30, rendez-vous en face de Place Laurier, sur le chemin, le boulevard Laurier, finalement.
Oui, direct sur le boulevard Laurier, entre les gros centres d'achat puis l'hôpital.
Ouais. Au minimum, on va distribuer des tracts. Au pire, on va faire du piquetage. Il n'y a aucun danger en venant cette affaire-là. Eux autres, ils font une espèce de prière silencieuse.
Ils se mettent dans un enclos.
Sur le terre-plein.
C'est génial.
Milieu. Donc ça, c'était la première plug. Alors, si on continue dans l'ordre chronologique, il faut savoir que Sequoia, donc la station qui diffuse Voix de Fait sur les ondes, a une nouvelle programmation. C'est d'ailleurs cette nouvelle programmation que vous êtes en train d'écouter présentement. Et ils vont la lancer avec une espèce de gros... Un gros power, finalement.
Une grosse catapulte.
Ouais, c'est ça. En fait, il va y avoir beaucoup d'artistes qui vont se relayer, une émission spéciale et tout. Et c'est sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, vendredi le 1er octobre. Ça commence à 5h. Et encore de plus, ça va être dans le sud de l'église. Donc, ce serait... en fait, si vous voulez rencontrer là, les artisans de Sequoia, si vous voulez aussi passer un bon moment, parce qu'en général, c'est toujours plaisant, ces activités-là, là, venir prendre une petite bière en écoutant de la musique sur le parvis de l'église, dès 5h vendredi, donc c'est le lancement de programmation de Sequoia. Et sinon, dernière micro-plug, il y a le Frappru qui organise des actions jeudi à Montréal, à Québec et à Saguenay. Alors, c'est des actions contre le gouvernement fédéral. Et c'est pour dire que si le gouvernement est capable d'acheter des avions de chasse, il est certainement capable de financer du logement social. Et donc, juste pour vous donner une idée, là, vous savez, là, la commande de nouveaux avions de chasse là, qu'ils ont fait, là, un seul de ces avions-là, ça vaut 3 500 logements sociaux. Et alors, nous, on dit, ben, crime, il faut financer du logement social. Donc, il y a un rendez-vous à Québec à 10h30 au centre Lucien Borne. Et donc, c'est ce qui met fin à cette édition de Voix de Fait. C'était Nicolas.
Jeannie.
Et Farouk.
Et vous allez écouter Salutations révolutionnaires du ministère des Affaires populaires sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec.
C'est tout un système qui mérite un coup de pompe. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo, dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires.
Faut y aller, unis et solidaires.
Unis et solidaires derrière la même bannière.
Faut y aller,
et yo, lève le poing,
refuse ce bond en arrière.
Faut y aller,
ne pas baisser les bras,
face à toute cette misère.
Faut y aller,
rendez-vous en enfer.
Rendez-vous en enfer,
salutations révolutionnaires.
J'aurais pu grandir en Arménie, ou faire du robadob à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un doua, qui voit sa terre trembler sous un faux barrage. Et je le sais quoi sous prétexte qu'Allah Akbar font sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre, ou mourir de faim au Bangladesh, être profidèle dans les Caraïbes, enfin des rues de Bagdad ou de Marrakech.
Faut y aller,
unis et solidaires derrière la même bannière.
Faut y aller,
et yo, lève le poing,
lève le poing, refuse ce bond en arrière.
Faut y aller,
ne pas baisser les
ne
bras,
pas baisser les bras face à toute cette misère.
Faut y aller,
rendez-vous en enfer,
rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires.
Affronter les conquistadors en Mexico, enfermé dans les géoles de Salazar. Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar. Caché au fin fond des montagnes tchétchènes, pendant que la corne de l'Afrique flambe. Étudiant sur la place Tiananmen, étudiant chilien en ce maudit jour de septembre. Avec Massoud, à Kaboul, face aux soviétiques et puis aux talibans. Ouvrier coréen en grève à Séoul, défendre les droits de la femme à Téhéran. Passer ma vie dans les apartheids de Cisjordanie ou de Johannesburg. Peut-être Trima, puis même l'Oued, et Amani, et dans ses faubourgs.
Il faut y aller, il faut y aller, faut y aller.
Unie et solidaire,
unie et solidaire derrière la même bannière.
Il faut y aller, il faut y aller, faut y aller.
Et yo, lève le poing,
lève le poing, refuse ce bond en arrière.
Il faut y aller, faut y aller.
Ne pas baisser les bras,
ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Il faut y aller, faut y aller, faut y aller.
Rendez-vous en enfer,
rendez-vous à l'enfer.
Salutations révolutionnaires.
Disent notre pays est en danger, disent qu'il y a trop d'étrangers.